Vincent 101. Le midi, on en jase. À Boulevard 101.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Oh oui, on adore jaser avec vous de politique, de sport, d'actualité, de sujets plus humains. C'est votre émission du midi à Boulevard 101, le midi à 14h, 418-971-101, évidemment, pour réagir. Vous êtes toujours nombreux à le faire. Pascal, on est toujours en attente de la sortie de Pablo Rodriguez de son bureau. On nous filme encore la porte, les micros sont prêts. Dès que la poignée bouge, Pascal, ouais. Je t'écris « La porte! »
Je te jure, si je travaillais avec l'équipe d'Infoman, pour moi, ça serait un des segments de mon émission cette semaine. Écoute, cette porte a eu de l'exposure comme pas possible,
c'est
comme porte
clair.
Possible.
Comme porte possible.
Désolée.
C'était parfait. Mis à part la porte, Pascal, qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité?
Oui, bien là, on parle de tramway ce matin, mais d'expropriation liée à ce projet-là sur la première avenue, entre autres. Des commerces bien, bien connus, implantés, entre autres, Pizza Salvatore, Couche-Tard, mm-hmm. Brûlerie Limoilou. Enfin, on veut réaliser le tramway. La Ville de Québec vient de peser sur l'accélérateur du côté du processus d'expropriation. L'administration Marchand a donc dans sa ligne de mire au moins deux restaurants, le café, le dépanneur, un stationnement, plusieurs logements. En fait, ils sont tous situés, ces bâtiments-là, le long de la première avenue. Et tout porte à croire qu'ils seront détruits, littéralement. Ça fait jaser, c'est sûr, c'est des lots complets, des lots visés, où il y a des institutions et qui sont des commerces de proximité, hein, à l'arrêt pour les gens qui habitent là. Donc, ça fait peut-être beaucoup de mécontents, je te dirais, là, quand on voit un peu ce qui se passe. Il y en a aussi qui sont inquiets de cette démolition complète-là, en disant, bon, dans cette situation-là, on comprend que c'est pour un projet, mais quelle sera la suite du quartier? Il n'y a pas d'endroit où on va pouvoir faire ces commerces-là aux alentours. C'est quand même assez construit.
Exactement. Peut-être que si on réussit à construire en hauteur, on va mettre du commercial.
Le dépanneur, le café, le Salvatore, tout dans une tour. Hein? Une grande tour dans les raies. Là.
Et voilà! On veut de la densité urbaine, Pascal, avec le tramway.
Mais le coût des acquisitions n'est pas encore dévoilé parce que les négociations avec les propriétaires sont en cours. Mm-hmm. Donc, chose certaine, les sommes vont faire partie de l'enveloppe globale de 7,6 milliards de dollars du méga projet. Accusé de tentative de meurtre pour avoir foncé avec sa voiture sur la centrale du SPVQ, ça s'est passé hier. Pierre-Olivier Jobin, 32 ans, bien, il a comparu ce matin pour répondre à 7 chefs d'accusation. Le ministère public demande une évaluation psychiatrique. Hier, en journée, bon, on apprenait ça, voyons. Même à toute vitesse, là, le véhicule de Jobin qui a foncé dans le poste d'accueil de la nouvelle centrale de police. On a demandé à ce que ce soit évalué, son état, son aptitude à comparaître, parce qu'on comprend pas, en fait, ce qui s'est passé. C'est un gars qui n'était pas connu des policiers, qui n'avait rien dans son dossier. Son dossier était vierge, 32 ans, mais tu sais, des chefs d'accusation importants, dont tentative de meurtre, voie de fait grave, voie de fait armée sur un ou des employés du service de police de la Ville de Québec. Il a aussi été visé par des chefs de conduite dangereuse, délit de fuite. On l'a gardé à l'intérieur du pénitencier. On va revenir avec tout ça la semaine prochaine en cours, mais c'est un dossier qui fait beaucoup rouler, notamment en matière d'évaluer la sécurité que les policiers ont autour d'eux. La chambre de vote aujourd'hui sur la publication des dossiers Epstein aux États-Unis, c'est important. On dit que c'est un texte qui sera assurément scruté de long en large. La Chambre des représentants des États-Unis qui doit se prononcer à 14 heures, alors dans environ une heure là, cet après-midi, sur le projet de loi qui vise à diffuser l'intégralité des documents qui sont liés à l'affaire Epstein. Un scandale, vous savez, qui colle à la peau du président américain Donald Trump.
Vraiment, et on en a parlé hier justement avec Luc Laliberté, là, avec la représentante républicaine Charlie Taylor Greene qui a décidé de claquer la porte et qui s'est excusé auprès de la population d'avoir autant appuyé Donald Trump dans ses politiques. 418-971-1021 pour réagir parce qu'on va parler de télétravail. Il y a déjà un texto qui est rentré. Envoyez-moi les fonctionnaires au bureau. Je suis tanné de me faire imposer pour payer pour ce monde-là. Ma voisine d'en haut, elle travaille 3 jours par semaine chez eux, puis je te confirme qu'elle travaille pas beaucoup pour les contribuables. Elle fait son épicerie le mercredi après-midi, elle fait du ménage, promène ses chiens, sort le soir. Donc, bref, il n'y a personne pour la surveiller. C'est le premier sujet qu'on va discuter avec Rémi Villemur, en direct de Montréal, excellent animateur au 99.5 Montréal. Rémi, comment vas-tu?
Ça va super bien, vous deux.
Parfait. Rémi, on est sur la même longueur d'onde, moi et toi, je le sais. On veut du monde.
Je m'excuse.
Oh, Pablo! Rémi, on s'en va voir Pablo. Donne-moi 2 petites secondes.
Qu'elle ait renvoyé la chef de cabinet, Mme Geneviève Vince, sans m'en parler au préalable, sans qu'il ait eu aucune discussion à ce sujet. Donc, ça a été un effet de surprise totale pour moi, pour les membres du caucus également. Donc, c'est à mon avis quelque chose de très sérieux.
Et pourquoi elle l'a renvoyé? Elle devait avoir de bonnes raisons, M. Rodriguez.
La question.
J'ai aucune idée. Je ne sais pas quels sont les motifs. C'est ça qui est particulier.
Vous avez pas eu une rencontre avec un avocat hier à ce propos-là, avec Mme Risky?
Madame Risky, lorsque je l'ai rencontrée hier, elle était ici effectivement avec un avocat, mais j'ai posé des questions à ce sujet pour qu'est-ce qu'il y avait comme faute et ça ne m'a pas été communiqué.
Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'elle pourrait revenir au caucus?
Elle est suspendue, donc qu'on va avoir une discussion entre elle et moi. Je dois réfléchir, elle doit réfléchir également.
Est-ce que vous allez réintégrer Madame
Hens? On verra pour l'instant, je ne sais pas comment va Geneviève. C'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, que j'aime beaucoup sur une base personnelle également. Je pense qu'elle doit souffrir beaucoup chez elle. Et... j'ai aucune idée, en fait, pourquoi qu'elle est... ce que ça s'est déroulé.
Ça ressemble à quoi, vos relations avec Mme Risky depuis quelques semaines?
Le PLQ, c'est le plus ancien parti de l'histoire du Québec. Le PLQ, c'est ses militants, c'est ses bénévoles, c'est son caucus également. Marois faisait un bon travail. Il y a plusieurs autres personnes qui font un bon travail. J'ai nommé André Fortin comme chef parlementaire. J'ai nommé Marc Tanguay comme whip en chef. Et le caucus, c'est un caucus solide qui va continuer à faire le travail. Mais le PLQ... c'est tous ces bénévoles également aussi, à travers le Québec. Alors, je veux les saluer, je veux les remercier pour tout ce qu'ils font. Et les choses, et les choses vont bien, je l'ai mentionné, on a plus de 250 personnes qui ont levé la main, l'argent rentre à un rythme beaucoup plus accéléré, les exécutifs sont reconstruits, donc ça va bien.
Comment vous qualifiez cette crise au sein de votre parti?
Il se gratte.
Ah, ouais. Ça, vous savez, en politique, je n'ai vécu une coupe, hein? Je veux dire, c'est pas pour rien que j'ai les cheveux blancs.
Parfait, on va retourner à Rémi Villemur. Alors, Rémi, pour te faire un résumé, parce que je sais qu'à distance comme ça, tu ne peux pas l'entendre, Pablo Rodriguez a mentionné que Marois Risky avait été démis de ses fonctions. C'est lui-même qui l'a expulsé du caucus parce qu'elle avait congédié Geneviève Hens sans l'en informer, sans en informer justement les hautes instances du parti. Ce qui est particulier, Pascal, c'est qu'il dit ne pas savoir pourquoi Marois Risky l'a congédié. Donc, est-ce qu'il y a anguille sous roche, Rémi? Parce que moi et Pascal, tantôt, on se disait « Ouais, il y a une plainte au DGE contre Mme Hens concernant la course à la chefferie au Parti libéral. » Alors, est-ce que Marois Risky ne dévoile pas toutes les informations à Pablo Rodriguez parce que lui aussi serait peut-être visé par cette plainte-là?
Ben, c'est une possibilité, là. Moi, je ne m'aventurerai pas plus loin sur cette question-là. Mais
moi non plus.
Ce qui est sûr, c'est que quand on organise une conférence de presse comme celle qu'il vient d'accorder, on ne peut que dire ce qui fait notre affaire, ou en tout cas, on fait semblant. T'sais, ce qui nous fait mal paraître davantage, parce que c'est une très, très, très mauvaise journée pour le Parti libéral du Québec, ben on ne le dit pas. Donc, s'il n'a pas l'avantage à dire qu'il sait pourquoi elle a été démise de ses fonctions, Mme Hens, ben il va pas le dire s'il n'a pas avantage à le dire. Là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, moi, à chaque fois qu'il y a des sondages sur la cote de popularité du Parti libéral du Québec, il y a une chose qui m'échappe. Pour un parti qui se fait très discret, il réussit quand même à se tailler une place pas trop loin du Parti québécois en matière d'intention de vote. Hein. Au dernier sondage, c'était 27 % versus 32. Par contre, dans le dernier sondage léger, on interrogeait les Québécois aussi sur la cote de popularité de Pablo Rodriguez. Hein. On mesurait quel était le chef le plus populaire de parti, le meilleur premier ministre selon les Québécois. Et Pablo Rodriguez arrivait à peu près ex aequo avec François Legault. Hein. Donc, François Legault était à 14 % et je pense que Rodriguez était à 17. Donc là, il faut juste se rappeler une chose. Le Parti libéral du Québec réussit à monter dans les sondages parce que l'axe souverainiste fédéraliste revient. Ça redevient l'axe qui est la pulsion centrale du jeu politique au Québec. Et on a une CAQ qui est ambivalente et en plus qui est vieillotte. Hein, ça fait déjà près de 10 ans qu'elle est au pouvoir. Mais le chef, Pablo Rodriguez, n'a pas encore réussi à faire en sorte que les Québécois tombent en amour avec lui. Mm-hmm. Il donne peu de conférences de presse, il donne peu d'entrevues, il est peu charmant, il a l'air fatigué. Il s'est absenté pour des raisons de santé. Il y a eu, des traitements aux yeux.
Oui.
Il s'est absenté, donc. Et là, aujourd'hui, la plus populaire à l'intérieur du caucus du Parti libéral, celle qui avait annoncé qu'elle s'en allait, eh bien, elle est jetée en bas de l'autobus à 11 mois de l'élection. Donc, ça va être très, très, très difficile pour le Parti libéral du Québec.
C'est à se demander si on ne voulait pas faire de vagues en ne sortant pas pour Pablo Rodriguez. Mais aujourd'hui... il y a quand même le genre de structure qu'on pensait revoir ou ravoir au Parti libéral qui s'effrite. On a une politique assez pauvre, je dirais, ces temps-ci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars, là.
Mais oui, effectivement, là, mais tu sais, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment ce matin qu'on a su que hein, c'est l'information qui a tout fait chavirer, là, c'est M. Rodriguez n'a pas été averti. Pablo Rodriguez n'a pas été averti. Quand ça a été coulé, ça, dans les médias, il n'y avait pas le choix comme chef qui n'est pas à l'Assemblée nationale, il n'est pas élu. Hein. Lui, il est sur la route, là. Il est comme Éric Duhem.
Oui, il fait le tour des régions.
Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, ça fut son cas avant l'élection 2022. Donc, dans cette position-là qui est très vulnérable, il ne pouvait pas laisser ça passer. Je pense qu'il y avait quand même une option supplémentaire. Il aurait pu convaincre Marois Risky de sortir et de dire, regarde, tu t'en vas dans 11 mois. Là, honnêtement, tu as peut-être le destin à très court terme du Parti libéral du Québec entre les mains. Il faut que tu t'arranges, tu sais, pour dire que tu t'excuses, tu aurais dû avertir le chef. Parce que là, si tu ne fais pas ça, moi, je parais mal, je te mets dehors, tu es la plus populaire. Il n'a pas été capable de la convaincre. Ça laisse peut-être croire que le conflit n'a pas commencé ce matin ou hier ou avant-hier.
Oui, en effet.
Que moi.
En effet, ça laisse croire que c'est un conflit, justement, qui s'est animé, qui a grandi de semaine en semaine, de mois en mois, et que là, on est devant l'irréconciliable. Parce que sinon... il y a un mouvement qui se serait fait, surtout que Marois Risky, son conjoint dans le caucus du Parti libéral, c'est une libérale depuis la nuit des temps. Alors, de tourner le dos comme ça à son parti, 11 mois avant qu'elle quitte, 11 mois avant l'élection, c'est qu'il y a vraiment un conflit de personnalité entre les deux. Es-tu d'accord avec moi?
Oui, bien vu. C'est très bien vu. Des fois, il faut... ces gens-là sont des gens de conviction. Oui, ce sont souvent des gens qui ont des intérêts individuels, personnels, à faire valoir, mais ce sont des gens qui appartiennent à des formations politiques depuis des années, qui ont donné du temps, de l'argent à ces partis politiques-là. Alors, quand ils sont prêts à claquer la porte de cette façon-là, c'est pas parce qu'on s'est accroché dans le couloir, c'est pas parce que quelqu'un a utilisé un seul mot qu'il ne fallait pas utiliser, c'est une accumulation. Donc, moi, je pense que ça fait des mois que ça dure, je pense pas que c'était forcément son candidat préféré aussi, Pablo Rodriguez, lorsqu'il y a eu la course à la chefferie. Et voilà ce que ça donne. Donc là, les libéraux vont avoir beaucoup de difficultés parce qu'ils se débrouillaient bien dans l'ombre, très discrets. Hein, ils esquivaient tous les enjeux politiques. Ils ne se démarquaient pas, mais ça leur était payé. Et là, il va falloir, au contraire, qu'ils aillent sur la place publique pour retrouver un semblant de sympathie populaire. Mais ce n'est pas la stratégie qui a été la leur depuis, quoi, 2 ans?
Non, en effet, avec Marois Risky, avec Marois Risky à la tête des libéraux, on s'était positionné en faveur de plusieurs politiques qui rapportaient à la population, voire la semaine dernière, au niveau de la grève à la STM, de devancer le projet de loi de Jean Boulay. Ça me permet de faire un crochet justement sur notre sujet qui est le télétravail. Pas surprenant, QS qui déchire sa chemise en disant les fonctionnaires devraient avoir le droit de travailler à la maison, ça n'a pas d'allure que le gouvernement les force à revenir 3 jours au travail. Plus surprenant dans mon cas que le PQ embarque là-dedans, parce que Rémi, on ne se le cachera pas. À un moment donné, ça en prend une cohésion d'équipe. Ça prend des gens qui travaillent ensemble, je le sais qu'on est de cet avis-là, et je suis déçu peut-être du futur gouvernement du Parti québécois de démontrer cette mollesse-là.
Bien, en tout cas, ce qui est un peu incohérent, là, c'est qu'au Parti québécois, on a dit dans les derniers mois qu'on était pour la refonte de l'État, on était pour revoir certaines conjonctures, certaines tendances, certaines traditions hein, de tout penser par l'État, de tout passer par la bureaucratie. Puis là, on avait une belle occasion, effectivement, de dire, bien, écoutez, non, là-dessus, je pense qu'on va encourager le retour une journée de plus, hein, en passant, parce que là, les fonctionnaires peuvent rester 3 jours minimum à la maison, en certains ministères, et là, il était question de les ramener une journée de plus. Moi, là, je ne comprends pas une chose. Quand il y a eu la COVID, on s'est tous ramassés, ou presque, en télétravail.
Confinés à la maison.
Par la suite, on a dit, c'est la nouvelle façon de vivre, ça ne changera pas, les tours à bureaux vont être transformées en condos, les centres-villes vont devoir se réinventer. Et là, le naturel est revenu au galop, hein? Après avoir été chassé, on s'est ennuyé du monde, on s'est ennuyé de notre monde, on s'est ennuyé des contacts, on s'est ennuyé des discussions autour du micro-ondes et même de la mauvaise haleine de notre collègue. On se disait...
Ah, ça dépend.
Non, ouais, mais on s'est dit, on passera pas quand même notre vie à la maison. Ouais. Je veux dire, c'est pas fait de même la vie. Et là, il y a eu des études fascinantes, qui ont été faites dans les dernières années à travers le Canada. On offrait des cartes avec des codes de couleurs pour voir là où il y avait le plus de télétravail. Et mes chers amis, où est-ce qu'il y a le plus de télétravail au Canada? Dans la région de l'Outaouais, là où il y a une forte concentration de fonctionnaires fédéraux. Pourtant, on nous a dit, les entreprises ont compris le message, il faut ramener les gens à la maison, les organisations ont compris le message, les gens ne sont pas plus productifs à la maison qu'ils ne le sont au travail. Pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, le sens commun est assez utile là, dans cette réflexion-là. Si vous avez quelqu'un qui regarde au-dessus de votre tête ce que vous êtes en train de faire, ça va plus vite que s'il y a juste votre chat qui est au-dessus de votre tête. Et il y a juste, finalement, il y a juste le gouvernement. Il y a juste le gouvernement où, là où il y a encore ce chantage-là, où on nous dit, même si c'est faux, la vie a changé, le travail a changé, il faut s'ajuster. C'est pas vrai, ça. Tout le monde s'est ajusté, tout le monde a changé, tout le monde est redevenu à la mode qui était avant celle de la COVID. Alors, le chantage ne doit pas fonctionner, on ne doit pas se laisser avoir par le chantage.
Moi, Rémi, une chose est sûre. Je serais pas capable de travailler à distance. Et c'est vrai, dans la pandémie, je travaillais pour un organisme communautaire. J'étais tellement content qu'on fasse de l'aide alimentaire. Ça me forçait à être au travail 4 jours sur 5. J'avais juste une journée en télétravail. J'ai besoin de ce contact humain-là. Toi, Pascal CV, qu'est-ce que t'en penses de ce télétravail-là?
Bien, honnêtement, c'est dur, nous autres, hein, de se prononcer parce que c'est très difficile, le télétravail en radio. Moi, je l'avais fait parce que mon ex, à cette époque-là, avait été dans les premiers cas de la COVID. Ouais. Fait qu'il savait pas du tout ce qui allait arriver avec ça. Puis il nous avait confinés. Là. Le gouvernement nous appelait chaque jour pour savoir qu'est-ce qui se passait.
Confiné, je me trompe.
Écoute,
pas.
Juste pour vous faire rire, moi, je l'avais enfermé dans le bureau. J'y apportais ses plateaux repas. Puis il sortait pas du bureau. Là.
Il avait une prison. Il était comme au trou.
Il était au trou.
Pascal a mis son ex-chum au trou, Rémi Villemot. T'entends ça?
je faisais de la radio de la cuisine, tu sais. Et ça coupait tout le temps et tout ça. Donc, on est très mauvais juge là-dedans. Il y a une question, par contre, que je me pose.
Vas-y donc.
Si j'étais gestionnaire, je pense qu'il faudrait que je gère mon déficit de confiance par rapport à l'être humain. Hein. Mm-hmm. Parce que quand tu travailles à la maison, tu fais 150 choses, ça se peut que ça soit hyper productif et ça t'aide réellement à travailler parce que tu fais ton lavage en maintenant. Mais j'entends tellement... Mais tellement des gens dire que dans les commerces de proximité, les coiffeuses, les esthéticiennes, les Costco, il y a du monde et pas à peu près.
C'est ça.
Puis j'ai bien de la misère à croire que ces gens-là ne sont que des gens qui ont un horaire variable.
Ouais, un horaire atypique.
Atypique. Et mon deuxième point là-dedans, c'est le social. Combien d'auditeurs m'ont dit après la pandémie, parce que je posais la question en onde, comment ça va votre social? Ah, oh, moi, je suis bien content, je suis un ermite, ça me fait du bien. Puis un an plus tard, c'était comme, hey, je me rends compte que je parle à personne si on vit seul, du côté de ces auditeurs-là, ou que je ne vois que ma famille. Je pense que ça peut avoir des dommages collatéraux qui sont forts. Je suis entre les deux. Mais je tiens à un présentiel, c'est sûr.
La santé mentale, Rémi, hein, Pascal amène tellement un bon point. La santé mentale, puis moi, c'est pour ça que je suis pour le 5 jours au travail.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'ai eu cette discussion-là depuis 2-3 ans avec toutes sortes de monde, puis des gens qui sont en télétravail, qui essayent de me convaincre, qui sont aussi productifs, sinon plus de la maison qu'au travail. Je suis désolé. Je suis difficile à convaincre, je suis peut-être un peu têtu aussi sur le bord, mais ça va me prendre plus que ces arguments-là. Et souvent, ce qui arrive dans ces discussions-là, hein, plus elles se prolongent, c'est que je me rends compte que la personne est en train de me dire qu'elle trouve ça plus agréable, au final, de travailler de la maison. Et là, tu te dis, mais le travail, c'est pas censé être agréable. C'est-à-dire, sans dire que c'est censé être désagréable, le travail, c'est un travail, c'est un emploi, c'est pas une partie de pêche. D'ailleurs, si le travail, c'était agréable, on n'aurait pas besoin de prendre congé du travail, on n'aurait pas besoin de vacances, ça serait pas pensé comme ça, le travail. Je préfère un travail dans lequel je m'accomplis et je trouve des moments de joie.
Ah oh oui, t'es, on a un excellent travail pour ça, on s'entend.
Oui, et c'est pour ça que je l'ai choisi, ce travail-là. Mais tu peux pas prendre au sérieux l'argument voulant que c'est un désagrément d'aller travailler. Ça a toujours marché de même. Puis, je veux dire, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on te donne un salaire. C'est un petit peu pour ça qu'on te demande d'arriver à l'heure. C'est un petit peu pour ça que tu as des responsabilités. Tu sais, on repensera pas le travail parce qu'il y a eu une pandémie qui est totalement terminée, là, soit dit en passant. On peut passer à autre chose. Là, on peut avancer, là.
Donc, Rémi, tu nous proposes d'avancer. Je te lis quelques réactions parce que ça fait énormément réagir notre sujet. Et merci beaucoup d'interagir au 418-971-1021. Isabelle qui dit « Je suis en télétravail et oui, tellement moins de perte de temps. Perso, je suis plus performante chez moi. Toutefois, c'est vrai, je m'ennuie du monde. Donc, j'ai 2 jours en préventiel. C'est super. J'adore l'hybride. Je choisis mes journées car, comme toi, j'ai besoin du contact humain, étant en plus célibataire. Donc, excellent point de la part d'Isabelle. Pascal, vas-y, continue de nous lire
ça. Il y en a plein d'autres, des gens qui disent hey, « Honnêtement, moi, le temps que je perdais à répondre aux questions quotidiennes avec mes collègues, ben, je perdais énormément de temps au travail, tandis que ma brassée de lavage prend 15 minutes à partir, par exemple. » Je trouve ça intéressant. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre qui dit « C'est dommage que certains ne prennent pas au sérieux le fait de travailler à la maison. En faisant semblant, ils font perdre leur avantage à ceux qui travaillent littéralement. Je suis au privé après 3 ans à la fonction publique, puis mon employeur nous donne l'option. Mais si tu ne travailles pas pour de vrai, c'est facile de s'en rendre compte. Et tu perds ton droit. » Je pense que cette façon-là de surveiller, elle l'apprécie. Personnellement, juste le fait d'avoir la permission de choisir quand je vais au bureau me donne envie d'y aller plus souvent versus avant. Quelqu'un d'autre qui dit « Allô, des fois, c'est pas une question de travail, de vouloir être en télétravail. J'habitais à Sainte-Brigitte-de-Laval puis je travaillais à Saint-Nicolas. Et le soir, ça me prenait 1h30 à 2h de trafic. Avoir été chez moi, j'aurais pu travailler au lieu d'être dans le trafic. » Je trouve ça intéressant, ça aussi.
Marie-Josée aussi qui mentionne qu'elle est sur la rive sud, qu'elle travaille sur la rive nord, et si elle était toujours obligée d'aller au travail, elle regarderait sûrement pour un autre emploi parce que trop de perte de temps dans le trafic avec ses enfants. Rémi, c'est un excellent sujet. Ça fait réagir nos auditeurs. On parle beaucoup de ça, hein, trafic, perte de temps. Et je termine là-dessus, Rémi. Je pense que c'est la preuve qu'on a très mal imaginé nos structures aussi avec le boom démographique au Québec, le boom d'immigration.
Oui, puis je pense aussi qu'on a besoin de se réconcilier avec le temps long. C'est-à-dire que quand on nous a dit pendant la COVID que le monde allait changer parce qu'il y avait un virus qui circulait, on a peut-être été trop nombreux à les croire, ces gens-là. Parce que moi, j'ai une pensée pour ceux qui ont acheté une maison en banlieue puis qui se sont dit, ben écoute, je veux dire, j'aurais plus besoin d'aller travailler au centre-ville ou j'aurais besoin d'y aller juste 1-2 fois semaine. Puis là, ils se font dire par leur patron dans la fonction publique, écoute, ton salaire est payé par les contribuables puis ils aimeraient ça, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui te surveille pendant que tu travailles. Puis là, ces gens-là disent, et je les comprends, Colin, mais je veux dire, je vais passer ma vie dans le trafic. Ben oui, mais c'était peut-être pas une bonne idée de croire les gens qui disaient qu'une pandémie allait tout changer, les structures humaines, là. Tu sais, fallait peut-être savoir que la vie est longue, que l'histoire est longue et que les gens reviennent toujours aux bonnes vieilles habitudes.
Rémi, tu as toujours un super franc-parler. Tu nous fais des chroniques exceptionnelles. Tu es avec nous du mardi au jeudi. Au plaisir de se reparler jeudi aux alentours de 13h. Et merci pour cet excellent sujet.
Ben ouais, c'était une chronique en télétravail.
Salut!
Wow!
Salut! Rémi Villemur, que vous pouvez entendre du lundi au jeudi de 18h à 19h sur les ondes du 99.5 et le samedi matin de 8h à 10h. Ça continue de réagir, hein, Pascal?
Ben oui, puis il y a une chose quand même dans son discours final à Rémi qui est, moi, et dans mon questionnement
donc,
par rapport
vas-y.
À ce genre d'enjeu-là, à moins que ce soit à ton contrat, OK? Que tu as le droit et tout ça, si c'est juste une technicalité qui a été dit puis qui a été adaptée en pandémie, puis du jour au lendemain, on dit, ben, tu reviens au bureau. Je comprends pas la revendication personnelle de ça. Mm-hmm. Parce que ça faisait partie d'un moyen d'adaptation à une situation. Je ne comprends pas le solidarité, le genre de manifestation quand on s'est adapté, maintenant on vous demande de revenir au travail. C'était pas un droit acquis. Dans certains contextes, c'est pas un droit acquis.
Je suis tellement d'accord.
Je comprends pas cette mesure-là, là, de pas un trouble de l'opposition, mais d'opposition dans ces cas-là. Si c'est au contrat, si c'est entendu, c'est écrit, si c'est quelque chose qui faisait partie de ton travail initialement, puis du jour au lendemain, tu peux poser des questions. Mm-hmm. Mais quand c'est vraiment juste une mesure d'adaptation, si tu as pris des décisions, toi, d'aller vivre un petit peu plus loin parce que c'était possible, puis à un moment donné, c'est coupé. Je comprends que tu peux être déçu et tout ça, mais je comprends pas le besoin d'autorité personnelle face à un patron qui vous demande de retourner. Je sais pas si c'est moi qui est dans le champ, là.
Non, je suis d'accord, puis je comprends pas non plus pourquoi les syndicats viennent déchirer leur chemise en disant « ça a pas d'allure!
Ouais. »
Ils nous demandent 3 jours au travail, t'sais, c'est un droit de gestion.
T'sais, à moins que ce soit vraiment écrit là, dans le contrat, puis qu'il y a des gens qui aient signé en conséquence, parce que ça, j'y crois, ça se peut aussi. Quand tu arrives, puis c'est entendu que, puis ça change après 2 mois, puis tu as pris des décisions en conséquence, hey, go, allez-y.
Ça, c'est clair que moi, pour l'avoir vécu comme gestionnaire, quand on est sorti de la pandémie et qu'on recrutait des nouvelles personnes, il y avait des gens qui nous le demandaient. Hey, est-ce que je vais pouvoir faire 2 jours de télétravail à la maison? Puis là, à ce moment-là, c'est une entente que tu as avec
puis
ces gens-là.
Verbal et écrit, ça compte.
Exactement. C'est une entente que tu as avec ces gens-là, mais du côté du gouvernement, il n'y a pas de contrat de fonctionnaire qui dit vous allez être 2 jours en télétravail.
On s'est adapté à la situation, puis maintenant, ben, on a envie de revenir à la normale que l'on connaissait avant la pandémie. Ça, côté opposition, je le comprends moins.
Mm-hmm. Mylène, qui est entièrement d'accord avec toi également, Pascal. C'est fou comment on nous parle du trafic, par contre. C'est là qu'on voit que c'est un irritant majeur dans la vie des gens. Énormément de gens qui sont en télétravail qui disent « Hey, je retournerai pas 5 jours en présentiel parce qu'on va être pogné 1 heure dans le trafic à chaque jour. » Fait que mon petit 2 jours... Je l'accepte, la pilule passe, mais le reste, j'ai vraiment de la difficulté. Je me rends compte que le trafic est tellement irritant.
On les comprend. On s'entend que c'est pas une généralité de gens qui travaillent mal aussi là, à la maison. Je veux dire, tu le sais, j'arrive très short par rapport à l'émission. Bon, assez pour si mon pneu crève, je suis à l'heure quand même. Mm-hmm. Mais j'aime ça me concentrer. Dans le silence, on lit des textes d'actualité. Il faut se rappeler si on regarde de faire des liens avec le passé et tout ça. Puis ici, ben, j'appelle mon zoo préféré. Là. Tu sais, tout le monde est content de se voir.
Pas bruyant partout dans le bureau
ici. C'est super bruyant.
Voyons là.
T'as l'air bête quand tu réponds pas trop aux conversations.
Oui, non, Pascal. Pas vrai, ça?
Fait que je... pas toi, là, mais en général.
Ben non, mais tu vas avoir de trompette que j'ai.
C'est une gang de créatifs. Fait que je le comprends que les gens aient plus la capacité de travailler à la maison. Puis, tu sais, pour des gens qui sont un petit peu plus ermites, qui se concentrent mieux, des TDA, ça peut aider. Puis, moi, j'y crois qu'il y en a qui travaillent mieux dans ces contextes-là. Mm-hmm. Où j'allais avec mon point, c'est que ça peut sûrement permettre à des gens de rester à des emplois parce que, ou encore de stabiliser sa santé mentale entre travail, famille, puis trafic actuellement.
Oui.
Quand tu perds 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures dans le trafic, il faut aller chercher tes enfants à la garderie. T'es pas arrivé à la maison avant 18h, 18h30, t'as pas fait les devoirs et leçons, souper pas. Hey! La vie, là, est courte.
Ah oui. Moins de stress et d'anxiété,
moins
c'est clair.
Moins de stress, d'anxiété. Si ça peut changer puis garder du monde au bureau, je le comprends aussi.
C'est clair, clair, clair. Pascal CV, on fait une courte pause. Par la suite, il faut que tu nous parles d'une histoire que tu as vécue en fin de semaine d'aide médicale à mourir. Puis avant, on va juste te donner un petit souffle pour que tu nous parles de ça avec le gala de lutte de vendredi, NSPW.
Oui.
La gravelle. Puis on va faire un peu de sport parce que le Canadien a encore perdu hier.
Là, je ne sais pas où vous en êtes. Là. J'espère que votre morale est d'acier hein, parce que je sais que c'est commencé la saison du Canadien avec tellement d'enthousiasme. Sinon, ben, c'est la petite bière, hein, la prescription de Denis Gravelle, la bière à la gravelle. Allez chercher. Elle est encore au Chaloux. Elle est encore disponible aussi à la brasserie Malco au marché Jean Talon de Charlebourg. C'est une bière blonde lager à 4,4%. C'est une bière qui se boit bien, légère, rafraîchissante. C'est vraiment le contraire de Denis Gravelle. Donc, vous allez avoir un plaisir, c'est certain, en buvant la Gravelle. Édition 10 ans de boulevard. Puis là, pourquoi il a brassé ça? Pourquoi ils ont brassé ça? Pour une bonne cause. Parce qu'une partie de chaque bière vendue, une partie des profits qui est remise directement à la bouchée généreuse. Vous savez, la bouchée généreuse, organisme qui aide à nourrir les familles dans le besoin. C'est un peu notre façon de célébrer en redonnant à la communauté d'avoir créé cette bière-là.
Oui.
Et on a une autre façon aussi de redonner à la bouchée généreuse. Le total des profits qui vont se faire au niveau de la NSPW vendredi, le gala de luttons contre la faim, qui oppose Yannick Marceau, sa gang de lutteurs professionnels, et Virginie Gagnon avec sa propre gang de lutteurs professionnels, c'est ce vendredi. Il reste des billets. Chacun des billets va directement nourrir des familles d'ici. C'est pas rien. Puis ça a un impact majeur parce que le montant amassé à la fin là, du gala de lutte, là, ben nous, on le double dans le sens où ils font affaire, la bouchée généreuse, avec des supermarchés, des grandes surfaces qui leur en donnent le double, qui en font 50% en fait, de plus avec le montant initial. Fait que si on ramasse 20 000, par exemple, c'est 40 000 automatiquement.
Exactement.
Ça en va chez Généreuse pour un super vendredi.
Donc, imaginez le nombre de familles qu'on peut nourrir avec ce montant-là. C'est 25 $ le prix du billet. Allez-y, les animateurs de boulevard, on va être présents également. Venez nous voir.
À la maison, là, ils ont du gaz pour 150 000. Vous êtes tannés. Vous savez que Noël arrive. Novembre, c'est gris. Vous savez pas quoi faire. Chacun des participant vendredi va faire une différence dans sa communauté, puis vous allez en faire brûler du gaz à votre enfant. L'affaire, c'est que nous, là, on a un droit là, qu'on n'est pas responsable, en fait, de l'énergie des enfants, puis de l'envie d'être lutteur
et
par la suite.
Sachez que les enfants peuvent crier tout ce qu'ils veulent à la lutte.
C'est un défouloir.
C'est ça.
Moi, on s'est défoulé beaucoup là, sur ma personne à dépasser. Ouais, je jouais le rôle de la méchante, vous avez été bon.
C'est un excellent défouloir. Parlant de défouloir, en fait, tu sais, mon amateur de lutte préféré, Edouard Fortin, il a 16 ans aujourd'hui, mon gars.
Ah, bonne fête,
oui,
Edouard.
C'est la fête de mon beau et doux d'amour que j'aime.
Ton plus vieux est passé adulte.
Ouais.
T'en as un à 2 ans de l'être. C'est fini, papa Jeff.
Papa Jeff, il n'y a plus même de colleux. Il faut qu'il prenne par surprise pour avoir un colleux. C'est comme ça que ça fonctionne.
Mais il y a une leçon de vie là-dedans, puis je pense que c'est un petit pont, en fait. Segment après la pause, après le Canadien. Je me souviens quand tu es entré ici où tu étais chroniqueur, dans le temps que je travaillais avec Ridge le matin, puis tu as amené tes gars
dans un
voyage sportif. Non?
Oui, dans un voyage sportif en Californie.
Puis tu avais dit, c'est pas mal ma dernière chance de les avoir tous en même temps. Là.
C'est ça.
Tous les gremlins en même temps dans un voyage père-fils. Puis ça m'est resté gravé. J'ai pas d'enfant.
Ouais.
Mais je trouve ça important. Puis si c'est parce que vous n'avez pas les moyens d'aller en Californie, c'est pas grave.
Non.
Mais d'arrêter le temps comme ça,
vraiment,
ensemble,
t'as
je trouvais ça merveilleux.
Ah, t'as entièrement raison. Puis ma blonde Val qui a écrit un super beau mot à Edou ce matin. Elle a dit, elle l'a remercié qu'il soit son acolyte quand je pars dans des lubies. Je sais pas, c'est quoi des lubies? J'ai-tu une lubie sur la porte tantôt?
Continue donc avec le Canadien. Toi, ben moi, c'est une lubie, là?
Non. Le Canadien de Montréal, hier, a perdu 4-3 en tir de barrage contre les Blue Jackets de Columbus. Pascal, ça s'est passé comme ça. Ils perdaient 3-1 après deux périodes. Ils ont marqué 2 buts en troisième, dont celui-ci.
Thompson qui reprend encore. Permutation avec Hudson. Hudson.
Encore Lane Hudson. Cet excellent défenseur du Canadien.
Qui a dévié. Je pense devant le filet sur le tir de Lane Hudson. Et c'est l'égalité. 3-3.
Alors là, les partisans étaient tout feu, tout flamme, mais ce joueur est venu gâcher tout.
Qui a 3 buts en 3 occasions cette saison. Marchenko devant Dobesh. Quel défi. Le tir.
L'excellent jeune joueur Kirill Marchenko des Blue Jackets de Columbus a scellé l'issue du match en tir de barrage, tout de même un point pour le Canadien. Prochain match jeudi face aux Capitals de Washington et Alex Ovechkin. Courte pause à Boulevard 102.1, l'émission On en jase et par la suite on parle d'aide médicale à mourir.
Oui, je ne sais pas si vous l'avez vécu, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, je ne sais pas si vous allez avoir à le vivre. Moi, j'en parle encore avec ma soeur hier par festin.
Parfait. Donc, on parle de ça immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102.1.